Le tour du monde des idées, Brice Couturier.
Bonjour Brice.
Bonjour Florian.
Alors vous nous avez présenté hier les essayistes les plus éminents du courant des New Optimists. Il y avait Matt Ridley, Steven Pinker et d'autres. Comment leurs idées se sont-elles diffusées dans les médias ?
Les thèses des New Optimists sont relayées par plusieurs éditorialistes influents de la presse anglo-saxonne. Philip Collins du Times, c'est l'ancienne plume de Tony Blair et l'actuel président du think tank de centre-gauche Demos. Nicolas Christophe, qui est éditorialiste au New York Times, est deux fois prix Pulitzer. Il est notamment l'auteur avec son épouse Cheryl Wooden du best-seller mondial La moitié du ciel, consacré au rôle des femmes dans les pays en développement. Et ensemble, il vient d'ailleurs de publier un nouvel essai qui s'appelle A Path Appears. Voici qu'apparaît un chemin, recension de cas exemplaires à travers la planète où un coup de pouce a permis à des individus de réaliser leurs objectifs. Citons aussi Brendan O'Neill qui publie à la fois dans The Spectator, qui est britannique et conservateur, et sur le site Spike, qui lui est libertarien. Alors sur quoi les New Optimists fondent-ils leur optimisme ? Eh bien sur toute une batterie de chiffres démontrant qu'à l'échelle de la planète, nous vivons de mieux en mieux. La pauvreté dans le monde recule à un rythme inespéré. Chaque minute, 100 personnes en sortent. Contrairement à une idée reçue et colportée, l'extrême pauvreté dans le monde régresse. Les chiffres sont parlants. En 1981, 52% des habitants des pays en développement survivaient avec moins d'un dollar par jour. Ils étaient encore 43% en 1990. À cette date, 2 milliards d'êtres humains disposaient donc de 1,25 $ par jour, car ce montant avait été une première fois réajusté. En 2015, pour la première fois de l'histoire humaine, le nombre de personnes vivant dans la pauvreté absolue, estimée désormais au-dessous d'1,90 $ par jour, est tombé au-dessous d'1 milliard. Il était estimé fin 2015 à 702 millions d'individus, soit moins de 10% de la population mondiale, contre encore 29% en 1999. Ça veut dire qu'en 25 ans, grâce à des programmes internationaux et à la croissance, 1,250 milliard d'individus, de personnes, sont sortis de la pauvreté, alors même que l'humanité, dans le même temps, augmentait de 2 milliards d'individus. Bien sûr, nous ne sommes pas directement concernés chez nous dans cette vieille Europe. L'extrême pauvreté a disparu depuis longtemps. Mais comment ne pas se réjouir des formidables taux de croissance qui, en Chine, en Inde et ailleurs, ont permis ces résultats ? Autre donnée indiscutablement réjouissante, il y a 150 ans, l'espérance de vie d'un être humain était limitée à 30 ans. Elle a atteint l'an dernier les 70 ans. Voilà encore une cause d'optimisme. Grâce au progrès de la médecine et de l'hygiène, la mortalité infantile a fortement régressé. La vie s'est allongée de manière spectaculaire. Plus intéressant encore, c'est au cours des toutes dernières années que ces progrès ont été les plus importants. L'espérance de vie, elle était inférieure à 60 ans dans le monde pour les deux sexes en 1970. Elle est aujourd'hui de 73 ans pour les femmes, 69 ans pour les hommes. Mais le plus spectaculaire, c'est ce fait souligné par l'OMS. Nous avons gagné 5 années supplémentaires depuis l'an 2000 seulement. Loin de ralentir, d'ailleurs, ça montre que la tendance s'accentue. On relève que dans des pays africains comme le Kenya ou l'Ouganda, on a gagné 10 ans d'espérance de vie en 10 ans.
Donc les progrès de la médecine seraient donc mieux partagés.
Eh oui, les causes de cette amélioration spectaculaire sont évidentes. Des maladies comme la variole ou la peste bovine ont été éradiquées. En 1980 pour la première fois, 2011 pour la seconde. Pour la première, je veux dire, et 2011 pour la seconde. La malaria recule en Afrique. Plusieurs pays dont la Chine, le Maroc et le Ghana sont parvenus à éliminer complètement le trachome, cette maladie terrible qui rendait aveugle des millions de personnes. La poliomyélite est officiellement éradiquée dans les deux Amériques, ainsi qu'en Europe ou en Chine et dans plusieurs autres pays. L'an dernier, le sida a tué deux fois moins de personnes qu'en 2005. Et pour la première fois dans l'histoire de cette maladie, une nouvelle thérapie dite kick and kill a permis d'éliminer toute trace du virus chez un patient qui en était atteint. On vit donc beaucoup plus longtemps parce que notre santé s'améliore de façon spectaculaire. Et oui, l'humanité entière touche les dividendes des investissements réalisés dans la recherche et le développement médical et pharmaceutique.
Mais alors pourquoi ce sentiment de déclin que les Français ne sont pas les seuls à ressentir, même si vous nous l'avez dit hier, on apparaît comme le peuple le plus pessimiste, en tout cas dans le sondage YouGov de 2015. Ça s'est un peu amélioré depuis, mais enfin...
D'après Steven Pinker, Tucker, célèbre psychologue américain qui fait partie de ce mouvement, si nous percevons pas ces améliorations alors qu'elles sont spectaculaires, c'est parce que nous basons nos raisonnements sur une information recueillie au jour le jour dans les médias. Or, ceci, c'est bien établi, ne s'intéresse qu'aux avions qui s'écrasent ou bien qui disparaissent en mer, et non pas aux 102 000 avions qui, chaque jour en moyenne, prennent les airs en transportant quelque 8,5 millions de passagers, soit un embarquement de 95 personnes chaque seconde quelque part sur la Terre. Nous ne prenons pas suffisamment de distance pour apprécier les améliorations dont nous bénéficions comme les autres. Alors les New Optimists appellent à prendre du recul, à raisonner à partir de l'observation statistique et de manière tendancielle. En outre, nous vivons, nous autres, dans une région du monde où l'essentiel de ces améliorations ont déjà eu lieu. Nous sommes tellement habitués à ce que chaque jour nous apporte quelques bénéfiques nouveautés que nous prenons le mieux pour un acquis, un dû, alors que le moindre accident nous cause une énorme frustration.